Radio Campus 88.3.
Il faut lui redonner une image positive pour que l'homme de la rue retrouve foi.
Tout va bien dans le meilleur des ondes.
L'esprit et le corps deviennent invincibles. On peut appeler cela une philosophie.
Aujourd'hui, c'est un truc mythique.
La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Au début de la radio, il y a une centaine d'années, on s'est dit que l'enregistrement sonore permettrait de diffuser la parole plus fort et qu'il pouvait même faire entendre les murmures. Alors que la radio connaissait ses premiers rayonnements dans les années 1920, les romans voyaient se développer le monologue intérieur. Alors quand Robin Farreau a décidé d'appeler son ensemble « Près de votre oreille », il en a fait un complice tout trouvé pour tenter de faire l'expérience d'un métaclassique intégralement chuchoté. Ô mystère ! Avec un tel protocole, va-t-on mieux savoir jusqu'où peut aller l'intériorité ? Est-il toujours si vrai que l'intériorité est plus profonde que l'extériorité ? Parle-t-on mieux de la musique quand on parle tout bas ? Et puis pourquoi a-t-on tendance, quand on chuchote, à pouffer de rire à la fin de presque toutes les répliques ? Aux côtés de Robin Farreau, ce sont la chanteuse Anaïs Bertrand et la gambiste Marion Martineau qui viennent chuchoter pendant une heure et donner à savourer quelques plages du disque Blessed Echoes paru sur le label Paradis. C'était important que ce soit le début.
Oui, c'est bien de commencer par le début. Et puis il se trouve qu'on est tous les trois rassemblés dans ce studio et qu'on joue tous les trois, Marion, Anaïs et moi, dans cette pièce-là en particulier. C'est la seule.
Une première piste. Ah, parce qu'après, on est 8 musiciens, donc après, c'est plus fourni. Mais pour commencer, on commence par quelque chose de très... comment dire ? Ce que j'ai dit, voilà. Très dénudé, très... Très... je vais trouver mes mots. C'est pas un mot. de pas du tout penser à la pièce, mais à, d'avoir, enfin, quelle image en fait on va utiliser pour entrer dans la pièce.
Mais ça veut dire que cette fragilité tiendrait au fait qu'on ne sait pas où mettre sa pensée.
Bah justement, il faut arriver à savoir où mettre sa pensée.
Bah, j'ai l'impression aussi que, et c'est ça qui est intéressant dans tout le projet, c'est qu'à la fois il faut être solide mais pas puissant, et que pour commencer un concert, ne pas la commencer par une pièce d'outils et forte, c'est une manière de tout de suite rentrer dans ce que ça représente de près de votre oreille, et cette à la fois ce calme, ce lâcher prise, et en même temps cette non volonté de puissance. Voilà. Pas si c'est clair.
Bah parce que le fait de s'approcher de l'oreille, quand même ça dit qu'il va y avoir de l'intimité.
Oui.
Que ça va être... comment dire? Enfin, qu'on va se dire des choses importantes.
Oui, mais d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Vous allez pouvoir y répondre. Ouais, parce qu'au début, le nom de l'ensemble, moi j'ai eu du mal à l'assumer.
Mais pourquoi vous étiez sûr qu'il fallait prendre celui-là alors?
Moi j'étais pas sûr.
Toujours pas sûr.
Et toujours pas sûr. Mais en tout cas, lorsque, dans les moments où je quitte ce doute, pour laisser place à une réflexion plus libérée des éventuels doutes que j'ai, je me dis que c'est un nom. Suggère pas mal d'exigences pour nous quand on arrive sur scène. Parce qu'en fait, si on s'appelle l'ensemble près de votre oreille, qu'on arrive sur scène et qu'on fait n'importe quoi, enfin, je trouve ça absurde.
Non, mais faut pas le penser absurde si on arrive sur scène et qu'on fait n'importe quoi.
Oui, non, c'est globalement absurde. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, enfin, moi je me suis rendu compte que c'était un nom.
Exigeant.
C'était un nom exigeant à porter. En fait, et pourtant il dit pas quelque chose de violent, il dit pas quelque chose de méchant, de. Mais il dit quelque chose d'assez fragile.
Bah, moi j'ai confiance. Je sais pas, parce que je pose pas cette question là, en fait. Parce que j'ai. D'abord, on s'entend quand même tous très bien. Puis j'ai confiance, quoi. Et les programmes. Bah, c'est les programmes qu'on aime tellement.
Mais ce que dit Robin, c'est que ça pose une espèce d'ambiance particulière, oui. D'office. Qui relève de quoi? De la délicatesse.
De la délicatesse et de la capacité à aller loin dans des nuances. Et ça, moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que c'est un métier qui est particulier d'être musicien et où il peut y avoir une forme de compétitivité et où du coup le fait d'assurer, c'est le premier réflexe. Si on a peur, on assure, et si on assure, on joue fort, on chante fort. Donc quelque part, atteindre cette exigence d'être tout de suite capable de rentrer dans cette sphère intime, c'est accepter qu'on a assez confiance et que la musique sera d'autant plus belle si cette exigence de volume, enfin pas cette exigence, mais si quasiment ce défaut de volume n'est pas là. Et moi je trouve ça super parce que c'est en fait assez rare. Et alors en plus on joue là avec des instruments anciens qui sont qui ont moins de volume que des instruments modernes, donc déjà l'ambiance instrumentale peut inviter nous les chanteurs à suivre ce mouvement, mais moi c'est un mouvement qui m'intéresse par ailleurs aussi dans toutes mes autres activités, de chercher cette délicatesse, cette fragilité dans un monde où en fait le volume et la puissance sont assez importants.
Thank you.
Donc là, par exemple, de retenir notre voix, ça nous donne la possibilité de dire plus de choses.
Ça, je sais pas. Peut-être qu'à un moment, on va crier.
Ça se pourrait.
Facile d'avouer ce qu'on a en tête quand on joue ensemble ou sur cette musique-là. Ou... Voilà.
Parce que s'approcher de l'oreille de l'autre, c'est aussi arrêter de faire comme si on ignorait qu'il y avait une distance. C'est aussi prendre au sérieux cette distance. Alors que quand on reste à des distances conventionnelles, c'est comme si on faisait fi de la distance.
C'est aussi inviter les gens à écouter. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est... On est quand même un peu projeté parce qu'on est des musiciens live, mais c'est aussi faire en sorte d'attirer l'écoute plutôt que de la provoquer.
Il peut y avoir un vertige à se demander jusqu'où on peut aller dans l'intériorité.
Je pense que c'est pas... C'est peut-être... C'est pas vraiment un vertige, mais c'est plutôt... C'est plutôt une question de maturité aussi. Moi, j'aimerais bien, en fait, si c'est possible, j'aimerais bien savoir comment on jouera ce programme-là dans 10 ans, quoi, justement. Ouais, ça peut s'apparenter presque à quelque chose de méditatif, quand même. Même si on est très actif dans la façon de faire la musique. Mais en tout cas, ça, je trouve que ça exige un peu un état de calme important pour défendre ce répertoire-là. Et en même temps, c'est tout l'équilibre du musicien entre le calme et l'action de raconter quelque chose. Mais moi j'aime bien justement ce vertige de calme en scène, parce que pour moi il y a comme une dichotomie qui est agréable à vivre, parce que si on est calme, on emporte aussi.
Et d'ailleurs on parle de vertige, mais moi j'ai l'impression que parfois quand on fait des concerts en duo, parce qu'avec Anaïs ça nous arrive de faire des duos, en fait... Le calme devient... Enfin, l'intériorité du calme. Mais quand vraiment on s'y habitue, c'est plus vraiment vertigineux, mais c'est hyper rassurant.
Oui, mais surtout...
Notamment vis-à-vis de la difficulté d'aller sur scène.
Oui, bah, c'est-à-dire que parfois j'ai l'impression que si, et c'est un peu le privilège de travailler avec des gens proches de nous, si on arrive à créer cette bulle, en fait ça englobe tout le monde.
Parce que ça, c'est un problème aussi. On peut avoir l'impression que de s'approcher de l'oreille, ça exclut les autres, ceux qui sont un peu plus loin.
Ah, je pense pas. Oui, ça, je comprends. Mais en fait, déjà, j'imagine que dans ce titre-là, il y a la volonté de s'approcher des oreilles de tout le monde. Et pas simplement de l'oreille d'une personne.
Donc, d'ailleurs, c'est tellement triste de voir que ces répertoires... Bon alors, dans la présentation de Place d'Écho, je dis souvent que c'est un répertoire populaire, ce qui est à la fois vrai et faux, parce qu'en fait c'est quand même aussi un répertoire aristocratique, c'est-à-dire que les gens qui maîtrisaient la musique à ce degré-là, à ces époques-là, sont des aristocrates ou des gens de la cour, et le caractère populaire intervient simplement parce que ces pièces figuraient dans certaines œuvres théâtrales qui étaient jouées à l'époque, et on peut imaginer qu'il y avait une forme de légère mixité sociale dans le théâtre élisabéthain. Mais ça n'empêche que la musique est quand même extrêmement complexe. Les textes sont des poésies d'une complexité littéraire assez élevée. Mais il n'en demeure pas moins que tout ça est absolument sublime. Et c'est vrai que moi je suis souvent très triste de me dire que... Enfin, heureusement, il y a les musiciens qui viennent travailler, qui partagent ça, et c'est heureusement qu'il y a ça. Mais on le partage avec tellement peu de gens, en proportion du nombre de gens qu'il y a. Et à la fois, moi ma vie, c'est pas de dédier la musique à apporter la musique, à apporter celle-ci aux défavorisés. Enfin, moi, je me bats avant tout pour la beauté, et enfin, comme nous tous. Mais du coup, malheureusement, j'ai pas décidé d'aller la porter à ceux qui n'ont pas la possibilité de l'entendre. C'est dommage. For the France,
respectée, mais je pense que que les hommes en ont besoin. Donc s'il y a des espaces qui peuvent le permettre, moi je serais contente d'en faire partie.
À votre avis, on sera dans quel état dans 30 minutes?
Ouais, très détendu, je pense.
Ah oui, plus que tout à l'heure.
Bah oui, parce que déjà on laisse peut-être le fait de chuchoter, on accepte de laisser un peu plus de silence, le silence déjà. Parce que ça nous détend pas mal. Ça repousse nos oreilles, justement. Finalement, on a l'impression de parler assez fort par rapport au début. Quoi.
C'est vrai, parce qu'on s'est accoutumé. Ouais.
Ouais. C'est comme un concert de clavicorde.
C'est ça.
On a l'impression de parler super fort. Quoi.
Au début, j'ai cru que vous alliez demander, d'après vous, comment on sera dans 38 ans. En fait, c'était 30 minutes. J'ai compris la question, du coup.
Et vous trouvez qu'elle est plus facile?
Ouais.
Mais
je sais pas, moi chuchoter ça me connecte à mon intériorité, du coup, en fait.
Mais je crois que c'est normal.
Du coup, ça me fait penser à plein de trucs, c'est pour ça que je parle de choses un peu étranges, mais...
Mais vous faites diversion, alors.
Un peu, oui. C'est paradoxal.
Parce que c'est quoi la dernière fois que vous avez chuchoté?
Ah bah justement, voilà. Bah c'était... Anaïs, elle a eu la chance de jouer à Naples. Un spectacle de Romeo Castellucci qui s'appelle Requiem et qui a été créé avec l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pigeon, et cette fois avec la collaboration de l'orchestre du Teatro San Carlo. Je suis allé écouter ce spectacle que j'avais déjà vu, qui m'a fasciné parce que c'est un spectacle qui part de l'extinction des humains. Enfin, disons que Castellucci se sert du Requiem de Mozart, donc j'ai oublié de le préciser, pour en fait parler de l'extinction des humains. Donc il y a toute une série, je sais pas si vous avez vu ce spectacle, il y a toute une série d'extinctions qui sont projetées sur la scène de l'extinction des dinosaures les plus rares, comme des sous-titres, voilà. Jusqu'à l'extinction de l'amitié, l'extinction de la tristesse. C'est un super beau spectacle, très intense. Ça serait, on va pas le raconter entièrement ici, mais il se trouve qu'il y a une générale où j'y suis allé avec ma fille, qui avait jamais vu à ce degré-là d'écoute un spectacle classique. Et là, moi je pensais que j'allais rester 10 minutes. En fait, je suis resté 1h30 avec elle.
Elle a 2 ans.
Sur un spectacle de 2 heures. Et du coup, j'ai chuchoté pendant 1h30.
Ah oui.
Oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'elle me parlait tout le temps. Mais en chuchotant, elle me disait, papa, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? Et le premier moment où elle a parlé, c'est quand, parce que au début le spectacle est tout noir, le chef arrive, c'est le seul qui est éclairé. Du coup elle voyait quelqu'un qui battait des bras, elle me disait, papa, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Papa, en chuchotant.
Les compositeurs que vous chantez, vous pensez qu'ils parlent?
Cela d'ici du disque là.
Je pense que Thomas Campion il parlait doucement.
Après faut se projeter dans une époque où il y avait peut-être moins de bruit.
Ouais.
Parce que par exemple, j'avais appris que les voix des femmes avaient baissé d'une octave en 100 ans à peu près.
Peut-être pas une octave quoi.
Franchement, on parle beaucoup plus grave.
Ah oui.
Vraiment.
Mais je pense quand même pas une octave.
Ah, je sais plus où j'avais lu ça, parce que j'avais justement réfléchi à... je m'étais intéressée à ces questions-là, et que c'était lié à l'environnement, déjà à l'environnement sonore, et aussi au rapport des hommes et des femmes, et tout ça, et que du coup, c'est un peu un autre sujet. Mais enfin, en tout cas, on adapte aussi quand même notre manière de parler à l'environnement.
Que vous avez enregistré, à votre avis, lequel parlait le moins fort?
Je sais pas.
une intériorité particulière.
Bah moi je trouve que la première pièce du disque, elle évoque. La première pièce du disque, elle évoque beaucoup l'intériorité.
Ouais.
Mais bon, on en
a déjà pas d'autres.
Censé enregistrer dans l'abbaye qui dispose d'une très belle acoustique dans l'abbatiale. Puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un montage de festival de musique du monde pendant toute la durée de notre enregistrement. Et il était question qu'il termine à 4h30 du mat, qu'il reprenne à 7h. Du coup, bref, on a été délocalisé et on est allé dans une église. Si je devais vraiment la décrire sincèrement, parce qu'elle est très belle dans un village du coup de Charente, très beau, Rome avec une église romane en fait, très, très beau le village. Il faisait très chaud, c'était en septembre, et il pleuvait, et déjà à la base l'église est super humide, donc il y a des espèces de champignons, du verre partout. Le virginal a complètement, comme on dit vulgairement, pété un câble, il fonctionnait plus. Et à la fois, c'est une église.
C'est un des instruments, le virginal.
Clavier que je... content qu'on aille dans cette église et qu'on, d'une certaine manière, on fasse retentir à nouveau des voûtes qui avaient vibré à l'écoute de toute la musique du XVIe siècle. Je trouvais ça beau. Et je me dis que quelque part, il restait un peu dans les murs certaines pièces de Manchicourt ou de Richafort, je ne sais pas. Et du coup, il y avait quand même une forme d'émotion. Après, c'était une baignoire, mais c'était super. Enfin, moi, si c'était à refaire, j'y retournerais dans cet enfer.
Ouais, c'était pas l'enfer. Ouais.
Non, c'était ça, pas l'enfer.
C'était pas l'enfer. Ouais, c'était bien, ouais.
Mais quand on chante dans un édifice très grand, on chante pas fort, même si on chante fort.
Moi, je chante pas.
Ah. J'y joue. Mais c'est quand même une façon. Jeter le son.
Bah oui, c'est vrai que ça, le son, oui, le son est porté dans les murs d'une église.
Oui,
c'est porté. Mais parfois il y a des églises qui ne favorisent pas du tout la musique. Ah, ça arrive aussi.
Qui écrase tout.
Bah, qui écrase tout, ou la musique se noie, ou parce que c'est, voilà. Toutes les églises ne sont pas forcément, ne mettent pas forcément en valeur. Même si. Après, c'est agréable, justement, quand, quand on chante, avoir des murs, c'est un vrai soutien quand même. Il faut que si les murs accrochent bien le son. Et du coup, dans une église, on peut se permettre aussi, justement, de chanter très, vraiment peu fort aussi, parce qu'on est très soutenu par l'acoustique. C'est parfois plus difficile dans des endroits très secs. Là, notamment dans ce disque-là, l'avantage de cette église était qu'on était dans un grand confort parce qu'elle sonnait beaucoup, donc on n'était pas obligé de tonner beaucoup pour avoir la sensation que le son était présent. Et comme la prise des micros est quand même proche dans l'enregistrement d'un disque comme celui-ci, on a des micros proches de chacun de nous, et ben je pense que la balance entre notre confort et la prise de son.
Est-ce que l'équilibre entre la voix et la partie instrumentale se vise à un endroit différent?
J'ai pas compris la question.
Bah, dès lors qu'il y a une enveloppe quand même qui quand même dépasse l'horizon des micros, on s'adresse à quel niveau?
Bah, par exemple,
quand on cherche l'équilibre des dynamiques.
Bah, quand on, dans le premier disque qu'on a fait, qui est à peu près du même répertoire, mais on n'est que quatre, il y a un luth, une viole de gambe et on est deux chanteurs. Et c'était quand même un sujet, parce qu'en fait, chanter avec un luth, c'est à la fois super, mais il faut s'adapter quand même au niveau du luth qui est pas très sonore.
Je précise que la musique pour luth et voix, entre la fin du 16e et les 40 premières années du 17e, c'est des kilomètres.
Oui. Non mais je dis pas que ça ne se fait pas.
Kilomètres de musique.
Je dis juste que, en tout cas, de manière pratique, pour nous, c'était un équilibre justement à trouver.
Oui, mais c'est
pour garder l'harmonie.
Mais c'est curieux parce qu'à la fois c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, de s'accompagner avec un luth, une guitare. Et en fait, c'est pas si évident.
Non, pas. Peut-être parce que justement on a des voix qui ont été travaillées avec beaucoup de puissance.
C'est de ça dont je veux parler.
Bah, bien sûr. Et pourtant, justement, il fallait trouver cet équilibre entre à la fois un répertoire qui a des tessitures assez amples, donc notamment moi je chante la partie aiguë, c'est quand même assez aigu, donc ça nécessite de soutenir le son et en même temps de garder une intimité assez grande pour fondre avec la couleur des instruments. Voilà, je sais pas si ça répond à la question.
À l'église, quand on chuchote, c'est pour raconter ses péchés.
Ouais, ou pour raconter des bêtises aussi, parfois.
Aussi, oui.
Je coche plutôt la deuxième case.
Moi, faut savoir que j'ai fait la maîtrise de Notre-Dame, donc j'ai passé beaucoup de temps
à chuchoter.
À chuchoter.
chuchoter avec pas n'importe qui alors.
Ah non, pas non. Non, non. Il faut que ce soit un petit peu drôle, quoi. Moi j'aime bien chuchoter avec Robin. Parce que sinon, j'ai des trucs comme ça. Moi je savais, en fait, je viens de découvrir que Robin savait chuchoter. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que tu savais pas.
Parce qu'il chuchotait que avec Marion.
Oui, je pense. Ouais, parce que généralement, paradoxalement, il est plutôt un peu bruyant.
Mais avant un concert, vous chuchotez pour vous concentrer.
Du tout, non.
Je suis dans tous les sens, hein, con.
Ah bon?
Ah ouais. C'est une cata. C'est une catastrophe.
Moi, je croyais qu'on disait des choses plus importantes en chuchotant.
Non, mais du coup, c'est, enfin, moi, je trouve ça rigolo de raconter des blagues en chuchotant aussi, parce que, bon...
Ah oui, c'est important de rire. C'est important de rire.
Et puis,
c'est
pour ça, enfin, je veux dire, on est quand même en train de chuchoter depuis je sais pas combien de temps, c'est quand même bizarre. Il faut qu'on ait un recul.
Ça va faire trois quarts d'heure à peu près.
Il faut qu'on ait un recul là-dessus. On peut pas juste subir comme ça l'étrangeté sans la soumettre au jugement du second degré.
Le jugement du second degré.
Mais vous pensez pas qu'il faudrait que toutes les radios jugent tout le temps?
Bah, en tout cas,
moi je commence à m'habituer. Surtout pas.
Non, mais de temps en temps, oui. C'est une bonne idée de suggérer. Vraiment, ce qui m'inquiète, c'est que c'est l'endormissement en général. Qui peut déjà être provoqué par la musique élisabéthaine. Alors en plus, si monsieur est entièrement chuchoté, on l'aura un peu cherché.
Oui, mais peut-être. Peut-être pas, au contraire.
Peut-être pas. On verra.
Mais parce qu'il faut commencer à admettre apparemment que dans la vie, on ne chuchote pas assez.
Ça nécessite qu'il y ait une contrainte de silence. Et il y en a. Mais moi j'aime bien quand il y a des contraintes de silence, justement, parce qu'on peut chuchoter, mais
œuvres de Shakespeare en particulier?
Ben, y a toujours une question de faux semblants, de... d'illusions mises en abîme.
Ouais, c'est assez...
Y a toujours du dessous qui,
oui, c'est sûr,
qui se prépare.
Et surtout dans le théâtre de Shakespeare, enfin j'en ai pas vu mille, mais du peu que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'il y a à la fois des questions existentielles et beaucoup d'humour aussi. Enfin, dans La Nuit des Rois, on est allé voir, c'était vraiment très présent, le, justement. Et qu'à ces deux niveaux-là, il y avait des couches cachées.
C'est marrant parce que, enfin, par exemple, Hamlet, c'est une pièce qui ressemble beaucoup à certains des plus beaux poèmes parce que c'est aussi quelque chose de tellement de richesse. C'est comme une, enfin, c'est une poésie élisabéthaine. C'est, ouais. Non, mais après, moi, je suis pas spécialiste du théâtre élisabéthain.
Mais quand on vous dit élisabéthain, ça vous dit quoi, Marion?
Question que personne ne voulait voir.
Ah ben on peut, ça peut être une question commune. Hein. Si.
Mais ça donnerait quoi de jouer du Shakespeare chuchoté?
En tout cas, là en France, on a eu beaucoup de Molière à la bougie grâce à Benjamin Lazare. Je sais pas si on a eu beaucoup de restitutions historiques du théâtre de Shakespeare. Ce serait intéressant quand même parce qu'il devait avoir des tas de codes, peut-être pas du tout. Mais non, mais c'est vrai que c'était comme, il y avait en tout cas un engouement, ce qui est dingue, en Angleterre. Une fois encore, j'y connais pas grand-chose, il y a vraiment des spécialistes de cette époque-là. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y avait plusieurs théâtres à Londres et les gens allaient au théâtre tout le temps, quoi. Et à Paris, ça n'existe pas à cette époque-là. Ça arrive un petit peu plus tard. C'est dingue. Mais ça donnerait quoi du théâtre de Shakespeare chuchoté? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup les acteurs chuchoter.
Bah, ils ont quand même une petite contrainte.
Bon, on pourrait les micro-ter pour qu'ils puissent chuchoter.
Bah, maintenant, on pourrait, oui.
Maintenant.
Mais d'ailleurs, ce programme, mais c'est des causes, quand on l'a donné à Sainte. L'été du confinement, où le public ne pouvait pas venir dans la salle. Et du coup, ils ont trouvé un système où ils avaient mis le public dehors, entouré de haut-parleurs, et nous, on jouait dans l'abbatiale. C'est une abbatiale. Abbaye.
Oui,
abbatiale. Et on avait des micros, et du coup, ils entendaient. On a juste à quelques mètres de différence, mais nous à l'intérieur, eux à l'extérieur. Et moi, j'avais écouté le concert de la veille, où la qualité de son était très, 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 très bonne. Donc moi, qui suis pas très pour... Évidemment, je préfère que tout le monde soit dans la même pièce, mais je dois bien reconnaître que à ce niveau-là, il y avait quand même une proximité de son pour le public qui était vraiment belle et que dans ces répertoires très délicats avec des cordes pincées, c'était génial de pouvoir avoir une écoute aussi précise.
C'était incroyable ce concert.
Celui de la veille ou le nôtre, ou les deux.
Celui de Sainte.
Oui, mais moi je parle de celui que j'ai entendu.
Ah oui, c'était incroyable aussi.
Du coup, j'imagine que ceux qui ont entendu le nôtre ont pu entendre avec une grande qualité sonore qu'on n'a pas forcément en live.
Ça veut dire qu'on se sent mieux écouté quand on projette pas trop, alors.
Je pense que c'est un peu différent.
Je sais pas trop quoi répondre. En fait, je me pose pas toutes ces questions.
Ça peut être un ressenti, simplement. De sentir la tension planer.
Oui, ça c'est sûr que quand on arrive à avoir une vraie connexion, ça se ressent tout de suite. Effectivement, l'écoute n'est pas du tout la même. Comment, je sais pas comment dire, l'atmosphère n'est pas du tout la même dans un concert, ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'on peut avoir aussi, on peut sentir cette écoute-là. Après, je sais pas parce que c'est pas optimum que ça, que
finalement à 20 ans, lui, déjà. Et par contre, c'est juste pas possible d'utiliser ce verbe à 20 ans. C'est pas admis. Les gens refusent que les gens de 20 ans parlent de vieillissement. Mais en tout cas, plus mon âge grandit, plus je me rends compte que quand j'arrive sur scène, j'ai vraiment envie de persuader les gens de plus en plus que ce qu'on fait a de la valeur. Et alors que pendant longtemps, j'y allais de manière un peu plus naïve. Et du coup, plus ça passe et plus j'ai envie de maîtriser les outils, en fait, rhétorique. Donc ça passe par la construction des programmes, notre qualité d'interprétation. Mais c'est vrai qu'on... Je parle de ça parce que on maîtrise pas le degré d'émotion que reçoivent les gens quand on joue. Et à la fois c'est triste et à la fois c'est bien parce que bon, si on maîtrisait tout, ce serait un petit peu... Enfin c'est vrai que c'est ça qui est chouette quand on va au spectacle. On sait pas. C'est vrai que parfois l'émotion, elle arrive alors qu'on décroche de ce qu'on regarde. D'être dans un moment d'absence peut être vecteur d'émotion puisqu'on... se laisse aller à ses pensées pour peu qu'elles soient intenses. On peut parvenir à l'émotion grâce directement. Bref, et du coup,
tu vois ce que je disais tout à l'heure sur que le concert peut créer encore un espace d'introspection, bah ouais. Et que même si l'écoute n'est pas forcément attentive, elle en fait elle donne juste de l'espace, et ça c'est déjà énorme.
En conclusion,
ouais.
Est-ce qu'on a été plus loin que prévu une demi-heure plus tard ?
Dans quoi ? Dans la réflexion ?
Dans ce qu'on pouvait dire aussi. Au sens où...
Oui, il y a des idées qui sont venues sur le moment, c'est ça ?
Ben, si on n'avait pas chuchoté, on aurait peut-être dit des choses plus convenues.
Du temps, il y a une espèce de petite poubelle avec tout l'or que représente le temps pour voilà, indiquer sa valeur. Et je donne souvent des petits coups, quoi. Je respecte pas beaucoup. Mais c'est pas facile. Et d'une certaine manière, ne pas respecter le temps, c'est aussi une manière de défier un peu la mort.
Chuchoter, vous trouvez que c'est une bonne méthode pour prendre soin du temps?
Ouais, je pense. Parce qu'on respecte le silence.
Et c'est dans le silence que le temps est réel.
Ouais.
En tout cas, se sent mieux.
Je pense qu'on n'a pas assez conscience du silence. Et dans les concerts aussi. En fait, c'est un espace qui est important pour mettre en valeur tout le reste. Mais en général, je trouve que il n'y a pas, enfin, le... Ouais, on laisse pas assez de place au silence. Et on l'utilise pas assez. Enfin, on l'accepte pas assez. Parce que c'est un peu... Là, si je m'arrête de parler, par exemple, parce que c'est possible. C'est bien. C'est juste. Et ça veut pas dire que le lien entre nous est cassé. Et je trouve que quand on joue, c'est aussi de comprendre, d'essayer de comprendre comment les autres fonctionnent. D'avoir tout cassé et le silence, et du coup, prendre du temps. Forcément, ça demande plus de temps. Mais ouais, je sais pas si c'est très. De toute façon, ils vont s'endormir.
Non mais je bois tes paroles, Marion. Non mais c'est vrai que le silence. Mais moi j'ai un ami qui parle beaucoup du silence quand il joue. Et parfois ça a l'air un peu convenu de parler du silence pour un musicien. Mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que on est des architectes du silence en tant que musicien. C'est-à-dire qu'on décide de le combler ou pas. Et c'est vrai que si. C'est important de se représenter. Enfin, c'est un outil d'éloquence très important d'utiliser le silence. Si on l'utilise pas, on se prive de quelque chose d'assez.
C'est comme une forme de maîtrise du temps, en fait.
Ouais.
Pendant un temps donné, on le maîtrise pas, évidemment. Mais dans l'instant de la musique, on a cette capacité-là. Et ça, c'est vrai que c'est super agréable. Et moi, je trouve que dans une vie. Très vite, tout va très rapidement. Ouais. Quelque part, l'espace de la musique, c'est un luxe qu'on a. Parce que c'est quand même un endroit où on peut prendre ce temps-là. Et on doit le prendre, parce que c'est ça.
Parce que c'est un art du temps, justement.
Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier que pour faire transmettre, enfin, pour faire passer aussi. S'il n'y a pas ce temps-là, je vois pas trop ce qu'ils vont. Enfin bon, quand on écoute une œuvre pour une première fois, ou un programme pour une première fois, et qu'on n'a qu'une voix, par exemple, si celui d'en face laisse pas un peu de temps pour que puisse apprécier, digérer, en quelque sorte, bon, c'est pas très beau, mais à la fin, c'est quand même compliqué. Je sais pas ce qu'on retire. Enfin, moi, en tout cas, je vais pas redire grand chose, je suis désolée pour tous ceux que j'ai écouté qu'une fois. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que si on veut qu'il se passe autre, que la musique passe vraiment, la musique, enfin, il faut quand même du temps. Voilà. Et dans les tempi aussi, en fait. Non, mais... Avec, je veux dire, en respectant ce que le compositeur veut, bien sûr. Mais quand même, il y a quelque chose qui... Je trouve parfois que
breaking news.
Ah, oui, ouais, peut-être. C'est ça.
On y perd en justesse.
Après, il y a aussi une question parfois de... Il y a aussi une question parfois de... d'équilibre entre le temps qu'on prend et notre capacité à faire un joli son. Enfin, je pense par exemple à... quand tu fais une mise à niveau de chez... Enfin, parfois, si t'es trop lent... Si t'es... Enfin, puis ça dépend aussi des gens. C'est variable.
Et ça dépend des... Oui, des gens, des voix, des instruments, des tempéraments. Enfin, ça veut dire que c'est pas... Ça s'équilibre aussi entre plusieurs personnes, c'est-à-dire que
ouais.
Ça se trouve, ça se cherche vraiment entre nous, quoi. Y a pas... Mais c'est vrai que je trouve que justement ces moments-là, avec près de votre oreille, parfois on les a trouvés, et c'est assez... Et dans cet enregistrement, moi j'ai un excellent souvenir de cet enregistrement, et ça restera toujours parce que justement, il y avait aussi cet espace-là qui était possible. Et le concert à Saint dont on parlait, le fait d'être entre nous, voilà, dans cette glaciale, c'était assez magique parce qu'en fait, ça nous... En plus, on était en cercle, je crois.
On était en cercle et on sortait du confinement. Donc,
il y avait beaucoup de choses. Il y avait quelque chose de complètement.
Non, c'est vrai que c'était très bien et c'est vrai que. C'est vrai que le programme est très 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 beau. Et parfois. Parfois, on est pris. Je veux dire, dans le travail qu'il faut fournir pour que tout le monde se sente à l'aise. Et c'est vrai qu'on arrive sur scène et on a tous nos stress. Et on profite pas toujours à sa juste valeur de ce programme. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps et parfois on le prend pas assez.
Mais parce que c'est un programme aussi extrêmement exigeant. Rassuré parce que il peut pas arriver, on va pas avoir des grosses surprises ou je sais pas, donc on peut arriver rassuré, mais dans des programmes comme ça qui sont quand même hyper fins, hyper délicats, enfin vraiment si c'est un travail de dentelle où tout doit être là au moment.
Je montre.